Chapitre 5. Mao et Béatrice.
Que le diable vous fasse sécher les entrailles à tous, mauvaises gens que vous êtes!
Criait la comtesse Mao.
Comment? Je fais saisir ces deux femmes par lesquelles on pouvait tout savoir, et pas plus tôt elles sont prises, voici qu'on les relâche!
La comtesse Mao, en son château de Conflans sur la Seine, près de Vincennes, venait d'apprendre quelques minutes plus tôt que les deux servantes de la Division, arrêtées sur son ordre par le bailli d'Arras, avaient été libérées. Sa colère était grande, et les mauvaises gens auxquels ses malédictions s'adressaient n'étaient représentés pour l'heure que par la seule Béatrice d'Irson, sa demoiselle de Parage, sur laquelle elle déchargeait sa fureur. Le bailli d'Arras était un oncle de Béatrice, un frère cadet de feu l'évêque Thierry.
« Ces mesquines, madame, n'ont été relâchées que sur un ordre du roi, présenté par deux sergents d'armes, » répondit calmement Béatrice.
« Allons donc! Le roi se moque bien de deux servantes qui tiennent cuisine dans un faubourg d'Arras. Elles ont été relâchées sur l'ordre de mon Robert, qui a couru chez le roi pour obtenir leur élargissement. A-t-on seulement pris le nom des sergents? S'est-on assuré qu'ils étaient bien des officiers royaux?
Ils se nomment Massiot l'Allemand et Jean le Servoisier, madame. » répondit Béatrice avec la même calme lenteur.
Deux sergents d'armes de Robert. Je connais ce Massiot l'Allemand. Il est de ceux que mon gueux de neveu emploie à tous ses méchants coups. Et d'abord, comment Robert a-t-il été averti que les servantes de la Division avaient été prises?
Demanda Mao en jetant sur sa dame de Parage un regard chargé de soupçons.
Monseigneur Robert a gardé beaucoup d'intelligence en Artois. Vous ne l'ignorez pas, madame.
« Je souhaite, dit Mao, qu'il n'en ait pas trouvé parmi les gens qui me touchent de près. Mais c'est déjà me trahir que de mal me servir, et je suis trahi de toutes parts. Ah, depuis la mort de Thierry, on dirait que vous n'avez plus de cœur pour moi. Des ingrats! Je vous ai tous couverts de mes bienfaits. Depuis 15 ans, je te traite comme ma propre fille !»
Béatrice d'Irson abaissa ses longs cils noirs et regarda vaguement le dallage. Son visage ambré, lisse, aux lèvres bien ourlées, ne trahissait aucun sentiment, ni humilité, ni révolte. Simplement une certaine fausseté par cet abaissement des cils extraordinairement longs derrière lesquels s'abritait le regard.
« Ton oncle Denis, dont j'ai fait mon trésorier pour complaire à Thierry, me gruge et me dérobe. Où sont les comptes des cerises de mon verger qu'il a vendues cet été sur le marché de Paris ? Un jour viendra où j'exigerai contrôle de ces registres. Vous avez tout, terre, maison, château acheté avec les profits que vous faites sur moi. Ton oncle Pierre, un niais que je nomme bailli, pensant que d'être si sot au moins il me sera fidèle, le voilà qui n'est plus même capable de tenir close les portes de mes prisons. On en sort comme on veut, comme d'une auberge ou d'un Bordeaux. »
Mon oncle pouvait-il refuser, madame, devant le cachet du roi ?
Et les 4 jours qu'elles ont passés en geôle, qu'ont-elles dit, ces servantes de mauvaise putain? Les a-t-on fait parler? Ton oncle les a-t-il soumises à la question?
Mais, madame, dit Béatrice toujours de la même voix lente, il ne le pouvait sans ordre de justice. Voyez ce qui est advenu à votre bailli de Béthune.
D'un geste de sa grande main tavelée, Mao balaya l'argument.
Non! « Vous ne me servez plus avec cœur, » dit-elle. « Ou plutôt, vous m'avez toujours mal servi. »
Mao vieillissait. L'âge marquait son corps de géante. Un rude duvet blanc croissait sur ses joues, qui s'empourpraient au moindre mécontentement. La montée du sang lui découpait alors comme une bavette rouge sur la gorge. Au cours de l'année précédente, elle avait connu plusieurs graves altérations de santé. Cette période lui était funeste, de toutes les manières. Depuis son parjure d'Amiens et la constitution de la commission d'enquête, son caractère s'aigrissait jusqu'à devenir odieux. De plus, son esprit se fatiguait. Elle mettait un peu toutes choses sur le même plan. La grêle avait-elle gâté les roses qu'elle faisait cultiver par milliers dans ses jardins, ou bien quelque accident était-il survenu aux machines hydrauliques qui alimentaient les cascades artificielles de son château d'Edin? Sa colère s'abattait comme tempête sur les jardiniers, sur les ingénieurs, sur les écuyers, sur Béatrice.
« Et ces peintures, faites il n'y a pas 10 ans »
criait-elle en montrant les fresques de la galerie de Conflans.
« 48 livres parisis, je les ai payées à cet imagier que ton oncle Denis avait fait venir de Bruxelles et qui m'avait bien garanti qu'il emploierait les couleurs les plus fines. Pas même 10 ans, et regarde donc ! L'argent des aumes se ternit déjà et le bas de l'image est tout écaillé. Est-ce là bon travail honnête, je te le demande ?»
Béatrice s'ennuyait. La suite de Mao était nombreuse, mais composée seulement de gens âgés. Mao se tenait à présent assez éloigné de la cour de France, qui était toute soumise à l'influence de Robert. Là-bas, à Paris, à Saint-Germain, autour du roi Trouvé, c'était sans cesse joute, tournoi et fête, pour l'anniversaire de la reine, pour le départ du roi de Bohême, ou même sans raison, simplement pour se donner plaisir. Mao n'y allait guère ou ne faisait que de brèves apparitions quand son rang de père du royaume lui obligeait. Elle n'était plus d'âge à danser carole, ni d'humeur à regarder les autres se divertir, surtout dans une cour où on la traitait si mal. Elle ne prenait même plus d'agrément à séjourner à Paris, en son hôtel de la rue Mauconseil. Elle vivait retraite entre les hauts murs de Conflans ou bien à Hesdin, qu'elle avait dû remettre en état après les dévastations exercées par Robert en 1316. Tyrannique, depuis qu'elle n'avait plus d'amant, le dernier avait été l'évêque Thierry d'Hirson qui se partageait entre elle et la Divion, d'où la haine que Mao vouait à cette femme, et redoutant d'être saisie de malaise nocturne, elle obligeait Béatrice à dormir au bout de sa chambre, où stagnaient des odeurs accumulées de vieillesse, de pharmacie et de mangeaille. Car Mao dévorait toujours autant, à toute heure saisie des mêmes fringales monstrueuses. Les tentures, les tapis, sentaient le civet, la venaison, le brouet à l'ail. De fréquentes indigestions l'obligeaient à appeler mire, physicien, barbier et apothicaire. Les potions et bouillons d'herbe succédaient aux viandes marinées. Ah, où était le bon temps où Béatrice aidait Mao à empoisonner les rois? Béatrice elle-même commençait à ressentir le poids des années. Sa jeunesse s'achevait. 33 ans, c'est l'âge où toutes les femmes, même les plus perverses, contemplent les deux versants de leur vie, songent avec nostalgie aux saisons écoulées et avec inquiétude aux saisons à venir. Béatrice était toujours belle et s'en assurait dans les yeux des hommes, ses miroirs préférés. Mais elle savait aussi qu'elle ne possédait plus absolument ce teint de fruit doré qui avait fait l'attrait de ses 20 ans. L'œil très sombre, et qui ne laissait presque pas paraître de blanc entre les cils, était moins brillant au réveil. La hanche s'alourdissait un peu. C'était maintenant que les jours ne se devaient point perdre. Mais comment, avec cette Mao qui l'obligeait à coucher dans sa chambre, comment s'échapper pour rejoindre un amant de rencontre ou pour aller à minuit en quelque maison secrète, assister à une messe vaine et trouver, dans les pratiques du sabbat, les épices du plaisir? « Où es-tu à rêver ?» lui cria brusquement la comtesse. « Je ne suis pas à rêver, madame, » répondit-elle en ramenant sur Mao son regard coulant. « Je songe seulement que vous pourrez avoir meilleure fille que moi pour vous servir. » Je pense à me marier. » C'était là une savante méchanceté, dont l'effet se manifesta sans retard.
« Beau parti que tu feras !» s'écria Mao. « Ah ! Il sera bien pourvu, celui qui te prendra pour femme, et qui pourra rechercher ton pucelage dans le lit de tous mes écuyers avant que d'aller aussi y gagner ses cornes !»«
À l'âge que j'ai, madame, et où vous m'avez tenue fille pour vous servir, pucelage est plutôt malheur que vertu. » « C'est de toute façon chose plus commune que les maisons et les biens que j'apporterai à un mari. »«
Si tu les gardes, ma fille, si tu les gardes, car ils ont été tondus sur mon dos !»
Béatrice sourit, et son regard noir à nouveau se voila. « Oh, madame, » dit-elle avec une extrême douceur, « vous n'iriez point retirer vos bienfaits à qui vous a servi en choses si secrètes et que nous avons accomplies ensemble ?» Mao la regarda avec haine. Béatrice savait lui rappeler les cadavres royaux qui dormaient entre elles, les dragées du hutin, le poison sur les lèvres du petit Jean Ier. Et elle savait aussi comment la scène finirait, par une montée de sang au visage de la comtesse, par la bavette rouge marquée sur son cou bovin.
« Tu ne te marieras pas ! Tiens, tiens, vois le mal que tu me fais à me tenir tête ! Et sois contente !»
dit Mao en se laissant choir sur un siège.
« Le sang me monte aux oreilles, qui sont toutes sonnantes. Il va falloir encore me faire saigner. »
« Ne serait-ce, madame, de manger trop qui vous oblige à vous faire tirer tant de sang ?»«
Je mangerai ce qui me plaît !»
hurla Mao.
« Et quand il me plaît ! Je n'ai pas besoin d'une ignorante comme toi pour décider ce qui m'est bon. Va me chercher du fromage anglais et du vin, et ne tarde pas !»
Il ne restait plus de fromage anglais au resserre. Le dernier arrivage était épuisé.
« Qui l'a mangé ? On me vole, alors qu'on m'apporte un pâté en croûte !»«
Eh oui, c'est cela.
« Bourre-toi et crève !» pensait Béatrice en déposant le plateau. Mao saisit une large tranche à pleine main et y mordit. Mais le craquement qu'elle entendit et qui lui résonna dans le crâne n'était pas seulement celui de la croûte. Elle venait de se casser une dent de plus. Ses yeux, gris et injectés, s'élargirent un peu. Elle demeura immobile quelques instants, la tranche de pâté d'une main, un verre de vin dans l'autre, et la bouche ouverte avec une incisive rompue au collet qui s'était mise horizontale contre la lèvre. Elle posa le verre, détacha sans peine la partie brisée de la dent. Elle mesurait de la langue la place vide sous la gencive et tâtait la surface râpeuse, blessante de la racine. En même temps, elle contemplait entre ses gros doigts le petit morceau d'ivoire jauni, noir à la brisure, ce fragment d'elle-même qui l'abandonnait. Mao releva les yeux parce que Béatrice, devant elle, était en train de pouffer. Les bras croisés sur la taille, les épaules agitées, la demoiselle de Parage ne pouvait plus contenir son fou rire. Avant qu'elle ait eu le temps de reculer, Mao fut sur elle et la gifla à la volée, par deux fois. Le rire de Béatrice s'arrêta net. Derrière les longs cils, les prunelles noires étincelèrent d'un éclat méchant, puis s'éteignirent aussitôt. Ce soir-là, quand Béatrice aida la comtesse à se dévêtir, il semblait que la paix fût rétablie entre elles. Mao, revenu à son obsession, expliquait à Béatrice. « Comprends-tu pourquoi je tenais tant à ce qu'on questionnât ces deux femmes ? Je suis certaine que la Divion aide Robert à fabriquer de fausses pièces, et je voudrais qu'on la prît la main dans le sac. » Elle suçait machinalement son chicot que le barbier avait limé. Béatrice, depuis la double gifle, mûrissait un projet. « Puis-je, madame, vous proposer un conseil ? Accepteriez-vous de l'ouïr ? Mais oui, ma fille, parle, parle. Je suis vive, j'ai la main leste, mais j'ai confiance en toi, tu le sais bien. Eh bien, madame, tout le mal vient de l'héritage de mon oncle Thierry et de ce que vous n'avez point voulu payer ce qu'il laissait à la Divion. Une mauvaise créature, certes, et qui ne méritait pas tant, mais vous vous êtes fait là une ennemie qui tenait certains secrets de la bouche de mon oncle et qui est en train de les vendre à Monseigneur Robert. C'est une chance encore que j'ai pu vider à temps le coffre d'Hirson où mon oncle serrait certains de vos papiers. Voyez quel usage en aurait pu faire cette mauvaise femme. Un peu d'argent et de terre que vous lui eussiez donné, et le bec lui était scellé. « Eh oui !» dit Mao. « J'ai peut-être eu tort. Mais avoue que cette ribaude qui s'en va se chauffer dans les draps d'un évêque se fait encore porter au testament comme si elle était épouse légitime. Eh oui, oui, j'ai peut-être eu tort. » Béatrice aidait Mao à ôter sa chemise de jour. La géante levait ses énormes bras, découvrant aux aisselles une triste toison blanche. La graisse formait bosse sur sa nuque, comme sur l'échine des bœufs. La mamelle était lourde, affaissée, monstrueuse. « Elle est vieille, » pensait Béatrice. « Elle va mourir, mais quand ? Jusqu'à son dernier jour, je vais vêtir et dévêtir ce vilain corps et user toutes mes nuits auprès. Et lorsqu'elle sera morte, que m'arrivera-t-il ? Monseigneur Robert va sans doute gagner avec l'appui du roi. La maison de Mao sera dispersée. » Quand elle eut passé autour de Mao la chemise de nuit, Béatrice reprit. « Si vous faisiez offrir à cette Divion de lui payer le legs qu'elle réclame, et même quelque chose en sus, vous la ramèneriez sans doute dans votre partie. Et si elle a servi à votre neveu pour de mauvaises besognes, vous pourriez connaître lesquelles et en tirer avantage. »« C'est peut-être sagesse ce que tu dis là, » répondit Mao. « Mon comté vaut bien de dépenser un millier de livres, même pour payer le péché. Mais comment l'approcher, cette catin ? Elle loge à l'hôtel de Robert qui doit la faire de près surveiller et même la caresser un peu à l'occasion, car il n'a guère de dégoût. Il ne faudrait pas que la démarche fût éventée. Je m'offre, madame, à aller la voir et à lui parler. Je suis la nièce de Thierry. Il pourrait m'avoir confié pour elle quelque volonté. » Mao regarda attentivement le visage calme, presque souriant de sa demoiselle de Parage. « Tu risques gros, » dit-elle. Si jamais Robert l'apprend, je sais, madame, je sais ce que je risque, mais le péril n'est point pour m'effrayer,
dit Béatrice en ramenant sur la comtesse qui s'était couchée la couverture brodée.
« Allons, tu es une bonne fille, » dit Mao. « La joue ne te brûle pas trop ?»«
Si, madame, toujours. »«
Pour vous servir. »